écoutez On lit pour vous.
Reconnaître les bénévoles. Un texte de Manon Touffet, paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. Maxime Lawens a reçu le prix bénévole de l'année pour son dévouement et son engagement envers la communauté francophone. Il s'est vu attribuer ce prix au cours de la soirée de reconnaissance des bénévoles au Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile Mercier, CSSC Mercier, le 12 avril 2024. Citation « C'est gratifiant de s'entendre dire merci », commente Maxime Lawens. « Ça montre que ce que j'ai fait a aidé au moins un peu, et c'est ça le principal. » Fin de citation, ajoute celui qui travaille comme cuisinier à la crêperie La Petite Maison. Le francophone précise également que recevoir ce prix lui fait chaud au cœur. Tout au long de l'année, Maxime Lawens s'est notamment impliqué auprès de l'Association franco-yukonaise, AFY, en préparant les repas lors des cafés-rencontres. Citation « Je suis cuisinier dans la vie, alors je me dis que c'est peut-être moins d'efforts pour moi que pour quelqu'un d'autre, puis c'est toujours sympa. » Fin de citation, affirme-t-il. Pour le francophone, les cafés-rencontres sont une belle initiative et permettent de promouvoir la langue française. Au-delà de la cuisine lors des cafés-rencontres, Maxime Lawens fait également partie de la Fabrique d'improvisation du Nord. Il explique donc aider ses coéquipiers et coéquipières dès qu'il le peut. Depuis plus de 20 ans. La soirée de reconnaissance des bénévoles existe depuis plus de 20 ans et revient chaque année. À l'origine, elle était nommée le souper des bénévoles. Pour Kayleanne Leclerc, agente de projet marketing et communication à l'AFY et organisatrice de la soirée, c'est un événement très important. Citation « On veut reconnaître nos bénévoles, les remercier pour leur temps. C'est une soirée pour les gâter. » Fin de citation, raconte-t-elle. Bien que le but soit le même chaque année, les soirées, elles, diffèrent. Cette année, des prix de présence ont été distribués. Une initiation à la danse sociale a été offerte par Audrey Percheron, professeur de danse, ainsi qu'un bar à tacos. Citation « Le but, c'est que les bénévoles se sentent bien accueillis. C'est pour ça aussi que la soirée n'est pas ouverte à d'autres personnes. C'est juste pour les bénévoles. » Fin de citation, rapporte l'organisatrice. Un besoin important. Pour Kayleanne Leclerc, citation « Beaucoup de nos événements dépendent de l'aide des bénévoles. La communauté francophone est extraordinaire pour ça. On a au-dessus de 100 bénévoles cette année. D'où l'importance de reconnaître ça. On, l'AFY, est très fière chaque année. » Fin de citation, rapporte-t-elle. La jeune femme va plus loin. Selon elle, la communauté dépend du bénévolat. Citation « Ça crée une communauté » et ça permet d'apprendre à connaître les gens. C'est une richesse de faire du bénévolat. Je dirais que c'est donnant-donnant. » Fin de citation, ajoute-t-elle. Maxime Lawens s'accorde en ce sens. Pour lui, citation, « Si chacun donne un peu de son temps, ça fait beaucoup avancer la société. Je donne ma pierre à l'édifice et ça me fait du bien. » Fin de citation, conclut-il, en faisant référence à son engagement avec l'AFY et la Fabrique d'improvisation du Nord. C'était « Reconnaître les bénévoles », un texte de Manon Touffet, paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.
Porno et âge de raison. Une chronique de Pierre Trudel, parue le 8 août 2023 dans Le Devoir. La comédie musicale « Hair », présentée cet été à Montréal, comporte des scènes de nudité. Pour cette raison, elle n'est pas accessible aux moins de 13 ans. Au Canada et dans plusieurs autres pays, les lois prohibent la diffusion de matériel à caractère érotique ou pornographique à des personnes mineures. Mais une fois sur le web, ces limites s'effacent. Ce qui est interdit devient tout à coup possible. En quelques clics, n'importe qui peut accéder à du matériel pour adultes. Les sites Internet diffusant du matériel pornographique sont accessibles moyennant une obligation d'affirmer qu'on est âgé de plus de 18 ans. Mais toute personne qui sait lire a accès à de vastes répertoires de matériel qui, en vertu des lois, est réservé aux adultes. La situation est loin d'être nouvelle. On déplore depuis longtemps que la consommation de matériel pornographique tienne trop souvent lieu de source principale d'informations sur la sexualité. Et après, on déplore les détresses engendrées par les violences sexuelles. Cette incohérence entre les lois qui font consensus pour protéger les enfants et ce qui prévaut sur Internet est le résultat pathétique de notre résignation à subir les normes que la technologie impose par défaut. Prohibé partout, permis en ligne. L'iniquité de ce régime de deux poids, deux mesures en matière d'accès au contenu érotique n'a pas échappé aux législateurs de plusieurs pays démocratiques. En France, au Royaume-Uni et dans plusieurs États américains, les législateurs envisagent des lois afin de subordonner l'accès aux sites diffusant du matériel pour adultes à un mécanisme de vérification de l'âge. Au Canada, le projet de loi S-210, présenté par la sénatrice Julie Miville-Deschênes, va dans ce sens. C'est qu'en ligne, il est difficile de savoir avec certitude que la personne qui se connecte a bel et bien l'âge requis. Les opposants à la mise en place d'exigences de vérification de l'âge invoquent l'inexistence de moyens simples et efficaces de le faire, tout en protégeant la vie privée des personnes. La plupart des usagers de sites pornographiques sont réticents à fournir une preuve de leur identité. Certains ont préconisé la mise en place de dispositifs dits à double anonymat, faisant intervenir un tiers de confiance qui vérifie qu'une personne est bien majeure et transmet cette information au site pornographique avec un code sans lui révéler l'identité de l'internaute. Mais cela requiert de très solides garanties que les renseignements personnels ainsi échangés seront protégés en toutes circonstances. Le fait qu'on en soit encore à se demander s'il est techniquement praticable d'exiger une preuve d'âge en dit très long sur le retard affligeant à mettre nos lois à jour pour les rendre compatibles avec les contextes de la communication en ligne. D'un côté, on répète combien la porno n'est pas une bonne école pour apprendre les comportements compatibles avec le respect de la dignité humaine. Mais de l'autre, on néglige d'obliger à trouver les moyens de mettre en place des solutions techniques compatibles avec les lois. Si on était sérieux lorsqu'on prétend que le matériel érotique ou pornographique ne doit pas être à la portée des enfants, on aurait le courage d'exiger que l'accès à ces contenus soit subordonné à la mise en place de dispositifs technologiques de vérification de l'âge. Cette incapacité des États d'exiger le développement de solutions efficaces afin de respecter les règles quant à l'âge est emblématique des défis qu'affrontent l'État de droit et la démocratie. Tolérer que des configurations techniques empêchent d'appliquer les lois, c'est miner la crédibilité des lois adoptées dans le cadre de processus démocratiques. Devant l'actuelle indisponibilité de dispositifs techniques capables de protéger la vie privée et de procurer de la certitude quant à l'âge de ceux qui accèdent à un site, les États doivent choisir la concertation, non la résignation. Si on trouve important de limiter l'accès à certains contenus aux seules personnes qui ont atteint l'âge adulte, Il faut que les États se concertent pour forcer le développement de solutions techniques conformes aux lois. À l'égard des sites à contenu érotique ou pornographique, cela passe par l'imposition d'obligations d'installer des dispositifs qui respectent la vie privée des individus tout en assurant que seules les personnes ayant atteint l'âge requis puissent accéder au contenu à accès limité. L'humanité a réussi à aller sur la Lune et à guérir certaines des pires maladies. Avec de la volonté et de la détermination, il devrait être possible de relever le défi technique que représente la mise au point de dispositifs de vérification de l'âge conformes aux lois et respectant la vie privée. Sinon, qu'on ait le courage d'admettre que les lois interdisant aux enfants d'accéder à des contenus sexuels ne sont que des mesures cosmétiques de politiciens. On veut bien donner l'impression que le bien-être des enfants importe, mais on n'a pas le courage d'agir là où ça compte. C'était « Porno et âge de raison », une chronique de Pierre Trudel, parue le 8 août 2023 dans Le Devoir.
Métro et l'Oblast se remplissent les coffres avec l'inflation alimentaire. Un texte de Michel Girard, paru le 22 juillet 2023 dans le Journal de Montréal. Vous avez raison de chialer lorsque vous allez à l'épicerie. Le prix des aliments a effectivement beaucoup augmenté lors des deux dernières années. En me basant sur les données de l'indice des prix à la consommation compilé par Statistique Canada pour la période allant de juin 2021 à juin 2023, j'ai calculé que le panier d'aliments achetés en magasin a bondi de 21,1% au Québec. À titre de comparaison, sachez que cela équivaut à environ deux fois la hausse des salaires accordés aux travailleurs québécois durant cette même période de deux ans, laquelle joue entre 10 et 10,5%. Qui a le plus profité de cette augmentation spectaculaire du coût du panier d'épicerie? Les agriculteurs, les producteurs, les distributeurs, les transporteurs ou les supermarchés d'alimentation? Vous ne serez pas surpris d'apprendre que tout ce beau monde se renvoie la balle en se rejetant la responsabilité de la flambée des prix les uns sur les autres. Croissance marquée des profits. Chose certaine, les grandes entreprises de distribution alimentaire Metro et Loblaw ont grandement profité de la hausse du prix des aliments en enregistrant une croissance de leur volume de vente et, surtout, d'une solide appréciation de leurs résultats nets, profits. Et ce, au grand bénéfice de leurs actionnaires respectifs qui ont vu les actions de leurs entreprises respectives bondir en bourse. Sous la haute direction du PDG Éric R. Laflèche, Metro exploite 950 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes, dont Metro, Metro Plus, Super C, Marché Adonis et les supermarchés ontariens Food Basic, en plus des chaînes de pharmacies Jean Coutu et Brunet. Selon les analystes de valeur mobilière Desjardins, la croissance du bénéfice net par action de Metro sur deux ans devrait atteindre les 23,8%. Pour sa part, Loblaw contrôle quelque 2400 supermarchés répartis dans toutes les provinces canadiennes, soit les supermarchés Maxi, Provigo, Loblaws, Fresh Mart, No Frills, TNT. Plus les chaînes pharmaceutiques Shoppers Drug Mart et PharmaPrix. Du côté du géant ontarien Loblaw, dont le conseil d'administration est présidé par Galen G. Weston, également président et chef de direction de la société mère George Weston Limited, les analystes de Desjardins projettent une appréciation du bénéfice net de 37%. Concrètement, les bons résultats financiers de Metro ont eu pour effet de faire bondir l'action de 26 % pour une augmentation de valeur boursière de la compagnie de 3,58 milliards de dollars lors des 24 derniers mois. Chez Loblaws, le numéro 1 des supermarchés au Canada, ce fut carrément une explosion boursière alors que l'action a bondi de 59 %. La capitalisation de Loblaws en bourse s'est appréciée de 14,4 milliards de dollars. Un mot maintenant sur Empire, l'autre géant de l'alimentation au Canada dont le siège social est en Nouvelle-Écosse. L'entreprise dispose de 1600 magasins d'alimentation au pays. Ses principales enseignes sont IGA, Sobeys et Safeway. Étonnamment, cet autre grand joueur de l'alimentation au Canada ne semble pas avoir bénéficié de la hausse du coût du panier d'épicerie, du moins pour l'instant. La croissance de ses résultats nets serait limitée à 7,3% sur les deux années. Et c'est sans doute pourquoi l'action de la compagnie Empire végète en bourse. Panier d'épicerie. Quels sont les aliments dont les prix ont le plus augmenté au cours des deux dernières années inflationnistes? Le bœuf, 24,7%. Le beurre, 28,9%. Les produits céréaliers, 27,1%. Les fruits frais, 25,8%. Les produits de boulangerie, 23,5%. Les légumes en conserve, 28,1%. Les graisses et huiles comestibles, 51%. Les légumes frais, 20%. À l'opposé, il y a tout de même deux aliments essentiels dont le prix a augmenté plus raisonnablement. Je fais ici référence au lait frais, plus 10,2%, et aux œufs, plus 10,1%. Entre les deux extrêmes, on retrouve une panoplie d'aliments dont les prix ont augmenté passablement plus que la hausse des salaires. Les voici. Le porc frais ou surgelé, 17,6%. Le poulet frais ou surgelé, 16%. Le poisson et les fruits de mer, 16,2%. Le fromage, 19,4%. Café et thé, 19,7%. Boissons non alcoolisées, 15,3%. Par ailleurs, notez que les articles et accessoires de soins personnels vendus dans les chaînes d'alimentation et leurs filiales pharmaceutiques ont augmenté en deux ans de 13,6%. Comme prix de consolation, je vous signale que les médicaments et produits pharmaceutiques en vente libre ont augmenté de seulement 4,3%. Une petite pilule avec ça, sachez que le prix des médicaments sur ordonnance a monté d'à peine 1,7%. C'était « Metro et Loblaws se remplissent les coffres avec l'inflation alimentaire ». Un texte de Michel Girard paru le 22 juillet 2023 dans le Journal de Montréal.
« 40 nouveaux citoyens canadiens assermentés à Sherbrooke ». Un texte de Lilia Gaulin, paru le 2 juillet 2024 dans la Tribune de Sherbrooke. Après plusieurs années de démarches pour venir s'établir au pays, 40 personnes ont reçu leur citoyenneté canadienne récemment à Sherbrooke. Lors de la cérémonie qui s'est déroulée dans l'édifice Jean Byrnes au parc André Vigée, à l'occasion de la fête du Canada, les 40 personnes originaires de 15 pays différents ont prêté serment afin de recevoir leur citoyenneté. Certains habitent à Sherbrooke alors que d'autres étaient venus de l'extérieur pour assister à ce moment unique dans leur vie. Gloria Arenas, originaire de la Colombie, a obtenu sa citoyenneté en compagnie de son fils de 11 ans. « Je suis contente », lance-t-elle spontanément. Celle qui habite à Sherbrooke attendait avec impatience ce moment. « Ça fait longtemps qu'on l'attend », soutient-elle. « Je pense que ça fait 3 ans. Nos demandes étaient refusées car il manquait toujours quelque chose. Après ça, les photos étaient expirées, donne-t-elle en exemple. La préposée aux bénéficiaires salue les possibilités que lui offre le Canada. C'est pour des raisons de sécurité qu'elle et ses enfants sont venus s'établir au Québec en 2017. Gagner la citoyenneté canadienne. Le maire suppléant de la ville de Sherbrooke, Raïs Kibonge, a félicité les nouveaux citoyens canadiens. Pour faire une histoire courte, je suis né en République démocratique du Congo en 1985. Il y a exactement 20 ans, quand ma sœur m'a appelé pour dire qu'on allait avoir les papiers pour venir au Canada, je me suis dit « Non, c'est une blague. Ça fait 4 ans qu'on attend. » Aujourd'hui est une journée très spéciale. Je sais comment vous avez travaillé dur pour gagner la citoyenneté, a-t-il souligné lors d'un discours. Recevoir votre citoyenneté aujourd'hui est bien plus qu'une formalité administrative. C'est l'aboutissement d'un parcours, l'accession à la stabilité, l'adhésion à une communauté et le début d'une nouvelle aventure, a mentionné la députée libérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière. La députée caquiste de Saint-François, Geneviève Hébert, et les conseillers municipaux Claude Charon et Fernand Dallouze ont aussi assisté à la cérémonie. C'était 40 nouveaux citoyens canadiens assermentés à Sherbrooke, un texte de Lilia Gaulin, paru le 2 juillet 2024 dans la Tribune de Sherbrooke.
CAA Québec rate la cible, un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 10 avril 2024 dans la presse. Chaque année, durant la saison des nids de poules, CAA Québec fait un palmarès des pires routes du Québec. L'entreprise devrait avoir honte de cet exercice. Premièrement, parce que ce palmarès, du point de vue méthodologique, est loufoque. Deuxièmement, parce que le message envoyé par CAA Québec est dangereux pour les usagers de la route et toxique pour les contribuables. Troisièmement, parce qu'avec son palmarès, CAA Québec fait la promotion d'une vision préhistorique de ce que devrait être la priorité de tous les usagers de la route, y compris les automobilistes. Méthodologie loufoque. Ce n'est absolument pas un palmarès des pires routes du Québec. C'est le résultat d'un vote en ligne de gens en colère. On inscrit le nom d'une rue en mauvais état et on indique son courriel. C'est tout. Aucun critère, aucune vérification, aucune analyse, rien. J'ai voté pour ma rue, une rue de Gatineau en parfait état. Elle était en 28e position dans le palmarès. Petite note, j'ai pu voter 15 fois avec la même adresse de courriel. Un petit groupe mobilisé et même une seule personne survoltée peut faire en sorte que n'importe quelle voie se retrouve en première place. Ce palmarès, ce n'est pas de l'information, c'est du spectacle. Sécurité des automobilistes. Il est inquiétant que CAA Québec réduise la sécurité d'une route à la dégradation de son asphaltage et de son marquage. Les facteurs de risque qui rendent la réfection d'une rue prioritaire sont très nombreux. Achalandage, présence d'ornières profondes, absence d'espace pour le transport actif, proximité d'une école, transport de marchandises, etc. Il y a aussi des dangers qui ne se voient pas. Lorsqu'il y a un problème de drainage, une rue peut avoir une capacité portante qui se dégrade plus rapidement que dans une autre rue, même si sa surface asphaltée est en meilleur état. CAA Québec se vante qu'une majorité des routes qui ont figuré sur le palmarès des années précédentes ont bénéficié d'investissements à court ou moyen terme. J'imagine que CAA Québec ne s'est jamais demandé si la pression publique immense qui vient avec une publication comme la sienne, reprise par tous les médias,
n'avait pas incité des villes à sacrifier la réfection de rues plus dangereuses pour financer la réfection d'une rue devenue célèbre. Ce ne serait pas la première fois que des élus prennent une mauvaise décision parce que des démagogues ont mobilisé des gens en proposant des solutions simplistes qui ne règlent rien. Sécurité des contribuables. Pour des raisons évidentes d'économie, les administrations municipales veulent éviter de creuser deux fois. Elles tentent donc de jumeler la réfection de la surface, asphalte, avec celle du souterrain, aqueduc et égout. Par exemple, si une rue est finie en surface, mais que des travaux souterrains sont prévus dans 5 ans, la ville peut choisir d'attendre pour ne pas détruire une couche d'asphalte presque neuve quand vient le temps de refaire le souterrain. Autre choix stratégique. L'asphalte de la rue A est complètement fini. Il faut refaire la rue, ça vous coûtera 1 million. L'asphalte des rues B, C et D est en meilleur état, sauf qu'avec le même million, vous pouvez faire une intervention qui fera gagner 10 ans de vie à chacune des 3 rues, de loin le meilleur choix du point de vue du contribuable. Que faites-vous? Si on suit la logique de CAA Québec, la priorité est de faire la rue A, donc de sacrifier le contribuable au profit du militant qui a voté sur Internet. Une vision dépassée. Si on veut de belles rues bien asphaltées, il y a des solutions beaucoup plus efficaces que de pomper éternellement de l'argent dans le réseau routier sans changer nos façons de faire. Il devrait d'abord y avoir moins de rues et des rues moins larges, cela réduit la vitesse, donc plus sécuritaire et moins coûteuse. Il faut développer la ville sur elle-même plutôt que de l'étaler. Il faut aussi, de toute urgence, réduire le nombre de voitures sur les routes. À cet égard, je n'ai jamais compris la guerre de certains automobilistes contre les investissements dans les pistes cyclables, les espaces pour piétons ou, mieux encore, les tramways. Les piétons, les vélos et les tramways n'abîment pas les rues. Ils libèrent la place pour les gens qui n'ont pas le choix d'être en voiture. Au lieu de faire la promotion de la dépense en asphalte, CAA Québec devrait faire la promotion de ce genre d'investissement. Il constitue de vraies solutions pour tous les usagers de la rue, pour les contribuables et pour la collectivité. C'était « CAA Québec rate la cible », un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 10 avril 2024 dans la presse.